Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, puissance maximum pour l'ouragan Maria. Il s'est encore renforcé avant de frapper les Antilles cette nuit. Des dégâts en Martinique, nous dira Éric Balmire, et c'est désormais la Guadeloupe qui tremble. Ces mots étaient attendus. Pour la première fois, la prix Nobel de la paix birmane Aung San Suu Kyi s'exprime sur le drame humanitaire des Rohingyas. Elle demande à son pays de tout faire pour les accueillir. En France, faut-il pénaliser le harcèlement de rue? Le gouvernement lance le chantier aujourd'hui pour protéger les femmes qui en sont les premières victimes. Dans 20 minutes, la droite est-elle en train de se droitiser pour mieux se reconstruire? Question du jour, vous la posez à votre invité, Nicolas.
Il s'appelle Guillaume Pelletier, il est porte-parole des Républicains. Invité donc à 8h20. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le procès de la voiture de police incendiée l'an dernier à Paris. 9 hommes jugés à partir d'aujourd'hui. Une première en France, une plainte pour obsolescence programmée contre des fabricants d'imprimantes. Et puis Emmanuel Macron sur un toboggan et Jean-Luc Mélenchon dans l'ascenseur. Le chef de l'État dégringole dans notre dernier sondage Odoxa quand Jean-Luc Mélenchon lui s'envole. Un ouragan potentiellement catastrophique. Le centre américain des ouragans ne fait pas dans la nuance pour qualifier Maria. L'ouragan est passé au niveau maximum juste avant de frapper les Antilles cette nuit avec des vents soufflant en rafale jusqu'à 260 km/h. Bonjour Éric Valmire.
Bonjour Marc.
Les premières touchées ont été la Martinique et la Dominique. Que sait-on de la situation sur place?
Il est trop tôt pour évaluer la nature des dégâts en Martinique. Il est 2h du matin. Les vents sont encore violents. Des équipes de la protection civile envoyées en éclaireur indiquent que les routes sont coupées par des chutes d'arbres. Il faudra attendre le lever du jour pour un point précis. Franck Robine, le préfet martiniquais, vient de s'exprimer.
La ville de Macumba, Grand Rivière sont actuellement coupées. Donc nous maintenons la vigilance grise. Je rappelle que pour la population, hein, la vigilance grise comme la vigilance violette, ça veut dire je reste chez moi, bien à l'abri.
Si l'œil de Maria est passé à 50 km de la Martinique, en revanche, il n'a pas épargné la Dominique qui a essuyé des rafales à plus de 300 km/h. Avant que toute liaison ne soit coupée avec cette colonie anglaise, le Premier ministre indiquait sur les réseaux sociaux que le toit de sa maison s'était envolé. Elle a été secourue in extremis.
Et dans une heure environ, c'est la Guadeloupe qui sera touchée à son tour.
Si les vents sont d'une violence inouïe, Marc, le cyclone se déplace à une toute petite vitesse, 9 km/h. Il arrive sur la Guadeloupe, passera au sud de Basse-Terre. Tout le monde est cloîtré. Luana, qui vit en zone à risque, s'est réfugiée chez ses parents.
Pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de rester bien confinés dans la maison. Quand même avoir tout ce qui est lampe, bougie à côté au cas où il y aurait des coupures d'électricité, puisqu'on a déjà eu une coupure. L'eau a été coupée. Et quand on regarde dehors... Waouh! Tous les arbres dans le jardin sont en train de se courber. Ça va être compliqué de dormir ce soir.
Évidemment, dans le cœur de la nuit, sur toutes les îles des Antilles, dans les jours qui vont arriver, les écoles vont rester fermées, la vie économique est arrêtée. Il est conseillé de se munir de piles et de transistors pour écouter les consignes à la radio.
Merci Éric Valmire. Quant à Saint-Martin et Saint-Barth, elles sont elles aussi en alerte 10 jours après l'ouragan Irma. Maria devrait passer à plus de 100 km de leur côte. On redoute tout de même des inondations sur une population déjà fragilisée. Enfin, à l'instant, l'ouragan Maria vient d'être rétrogradé. C'est une bonne nouvelle en catégorie 4. Là où il était encore en catégorie 5 cette nuit.
Il est 8h04, elle était restée, Marc, muette jusqu'ici, malgré le drame humanitaire.
Aung San Suu Kyi, la prix Nobel birmane de la paix, s'est enfin exprimée sur la crise des réfugiés Rohingyas, cette minorité musulmane, victime de persécutions et chassée de Birmanie. Ils sont plus de 400 000 à avoir fui depuis un mois. Autant dire que sa parole était attendue. Discours à la télévision cette nuit. Aung San Suu Kyi condamne les violations des droits de l'homme. Elle affirme que son pays doit organiser le retour des réfugiés sur son sol. Mais elle donne aussi des gages aux militaires avec qui elle gouverne le pays. À Rangoon, Rémi Favre.
Aung San Suu Kyi condamne toutes les violations des droits de l'homme. Elle évoque la souffrance de ceux qui ont fui, mais elle défend aussi l'action de l'armée qui, selon elle, a agi avec retenue dans l'état de l'Arakan. Elle minimise l'ampleur de la crise.
Depuis le 5 septembre, il n'y a pas eu d'affrontement ni d'opération de sécurité. Pourtant, un certain nombre de musulmans traversent la frontière pour fuir au Bangladesh. Pourquoi? Je crois que peu de gens savent que la grande majorité des musulmans de l'état de l'Arakan n'ont pas fui. Plus de 50% des villages musulmans sont intacts.
Aung San Suu Kyi détaille ensuite l'action de son gouvernement dans l'état de l'Arakan, création d'emplois, construction de routes, électrification. Elle a par exemple expliqué que les habitants de l'Arakan avaient tous accès à l'éducation sans discrimination, une affirmation étonnante puisque les Rohingyas ne peuvent pas entrer à l'université. Aung San Suu Kyi a demandé l'indulgence de la communauté internationale, rappelant que son équipe n'était aux affaires que depuis 18 mois et que les problèmes qu'elle doit régler sont très nombreux. Rémi Favre-Angoun, France Inter.
8h05 en France, Marc. C'est une scène que tout le monde ou presque a déjà connue.
Une femme qu'on hèle ou qu'on siffle dans la rue, de la drague qui tourne aux insultes ou aux menaces. Faut-il pénaliser le harcèlement sexuel de rue? Un groupe de travail composé de 5 députés de tous bords va y réfléchir à partir d'aujourd'hui. Intention louable, disent les associations, mais difficile à mettre en œuvre tant le problème est partout autour de nous. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de se rendre à Bordeaux, sur le campus de la fac. Elle a lancé une grande enquête auprès des étudiantes, 5000 d'entre elles ont répondu et les premiers résultats, Thomas Biet, viennent d'être présentés.
Des données récoltées grâce à un questionnaire et à des marches exploratoires mises en place ces derniers mois.
Il s'agit de marches d'étudiantes qui préparent sur des cartes leurs itinéraires et qui explorent sur le campus les zones inquiétantes, les zones d'ombre, les zones où elles se font harceler, les zones où elles sont attendues souvent par des hommes malveillants.
Yves Rébeau, géographe et chargé de l'égalité femmes-hommes à l'université Bordeaux-Montaigne.
On a 275 personnes qui ont déclaré avoir croisé un exhibitionniste sur le campus. On a quand même une dizaine de déclarations de tentatives de viol ou de viol sur le campus et on doit avoir 700 ou 800 réponses d'étudiantes qui se sont fait suivre jusqu'à leur domicile et puis un nombre à peu près équivalent qui ont subi des agressions dans les transports.
Agressée dans les transports, Claire, étudiante à l'IUP de Bordeaux, l'a été il y a quelques mois.
C'était des attouchements, des agressions sexuelles, oui. J'ai pas pu réagir donc j'ai des amis qui m'en parlent et il y a beaucoup d'endroits en fait qui sont très dangereux en fait parce qu'il y a pas surtout la nuit il y a pas de lumière, c'est aménagé d'une façon qui est pas faite pour les piétons.
Les résultats définitifs de l'enquête seront présentés fin novembre, ils vont déboucher sur une série de propositions concrètes pour sécuriser le campus, parmi elles un meilleur éclairage, davantage de sensibilisation ou encore une réflexion sur la structure des bâtiments sur ce campus.
Une voiture de police incendiée, 2 fonctionnaires à l'intérieur et des images devenues virales, c'était le 18 mai 2016 à Paris, l'attaque d'une voiture de police dans laquelle un fumigène avait été jeté. Les faits s'étaient déroulés en marge d'une manifestation interdite contre la loi travail et alors que des policiers manifestaient eux aussi ce jour-là pour leur sécurité justement. Aujourd'hui, le procès de leurs agresseurs présumés débute à Paris. Ils sont 9 jugés pour violence volontaire en réunion ou dégradation. Il n'est plus question de tentative d'homicide volontaire, comme ce fut le cas au début de l'enquête. Les faits ont été requalifiés, ce dont se félicite l'un des avocats des prévenus, Antoine Comte.
On est parti le 18 mai 2016 d'une affaire visiblement dramatique, très couverte par la presse, de cette voiture de police qui a brûlé. Et ça a été totalement instrumentalisé. C'est une affaire qui a été utilisée à la fois par le pouvoir politique, par l'opinion publique, par les syndicats de police évidemment. Et vraiment, on est dans une affaire dramatique, qui est dramatique réellement, mais qui a été dramatisée à l'excès, me semble-t-il. Et la leçon qu'on peut tirer de cette instruction qui a duré un peu plus d'un an, c'est que les juges ont redimensionné l'affaire telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui a été prévu à l'avance, c'est pas quelque chose qui a été organisé, ça a été un mouvement de foule tout à fait inquiétant par certains côtés, mais qui n'était pas exactement ce que voulaient faire paraître et les syndicats de police et le pouvoir de politique et l'opinion publique telle qu'elle l'a ressentie, c'est-à-dire la volonté d'attenter à la vie des gens.
Antoine Comte au micro de Jean-Philippe Degnaud. Sur les 9 hommes jugés aujourd'hui, 3 ont reconnu leur implication à des degrés divers et 1 est toujours en fuite. Il s'agit d'un Suisse, c'est lui qui aurait jeté le fumigène dans la voiture. Il a fini par renoncer. Le groupe Bayer ne vendra plus ses implants contraceptifs Essure en Europe. Ils sont soupçonnés de provoquer des effets secondaires indésirables chez certaines femmes en France. 400 d'entre elles se sont regroupées récemment pour lancer une action de groupe contre le laboratoire.
Inter 8h09, une plainte pour éviter le coup de la panne.
C'est même une première en France. Une association vient d'attaquer plusieurs fabricants d'imprimantes qu'elle accuse de raccourcir délibérément la durée de vie de ses produits, en l'occurrence de ses cartouches d'encre. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et c'est une loi votée il y a 2 ans qui rend possible cette action en justice. Émile Meunier est l'avocat de cette association baptisée HOP, comme Halt à l'obsolescence programmée, et il ne compte pas s'arrêter là.
On a choisi les imprimantes parce que c'est un produit qui parle à tous les Français, qui coûte cher dans les cartouches, vraiment très cher, et c'est un produit où on a reçu énormément de témoignages, et donc ça nous a poussé à enquêter. C'est vrai, c'est une première. Ce délit date de 2015, donc avant ça, on ne pouvait pas faire une jurisprudence pour en dessiner les contours. Il faut bien commencer. C'est aussi pour ça que nous avons choisi les imprimantes, pour lancer un mouvement. Les imprimantes, c'est des faits suffisamment flagrants. Je peux vous dire qu'il y a une liste longue comme le bras. Certaines automobiles, tondeuses à gazon, mixeurs à fruits et évidemment ordinateurs. Quand on allait chercher chez les réparateurs leurs témoignages, ils nous ont tout de suite alerté sur certains ordinateurs. Je ne veux pas à ce stade-là donner de nom parce que nous n'avons pas fait une enquête aussi aboutie pour les imprimantes, mais je peux vous dire que les imprimantes, ce n'est qu'un début.
Émile Meunier, l'avocat de l'association HOP, des économies, oui, mais moins que prévu. Le gouvernement lâche un peu de lest sur le budget 2018. Les économies devront atteindre 16 milliards d'euros l'an prochain au lieu de 20 milliards annoncés. Des économies, les fumeurs eux, ne sont pas prêts d'en faire. D'après le journal Les Échos, le gouvernement a tranché sur le calendrier de la hausse du prix du paquet de cigarettes. Il augmentera d'un euro l'an prochain, puis de 50 centimes tous les 6 mois pour atteindre les 10 euros le paquet en 2020. Un été en pente raide pour Emmanuel Macron, ça se confirme. Le président a passé l'été sur un toboggan, 14 points de perdu en 2 mois. Dans le dernier sondage Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale. Globalement d'ailleurs, tout le personnel politique est en baisse, à deux exceptions près, la maire de Paris, Anne Hidalgo, peut-être un effet des JO 2024, et Jean-Luc Mélenchon, Gaël Slimane, le président d'Odoxa.
Dans ce jeu de quilles où tout le monde tombe, il y en a un qui sort du lot, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français, et il est pour la c'est la première fois que ça arrive, et c'est aussi la première fois qu'il est très largement la personnalité politique préférée des sympathisants de gauche. Il est apprécié par 68% d'entre eux. Donc on voit bien qu'à l'instar de ce qui se passe sur les mouvements sociaux où il a pris le pas sur la CGT et sur les principales organisations d'opposition, eh bien Jean-Luc Mélenchon est devenu de très loin le meilleur et le premier opposant à Emmanuel Macron.
Enquête Odoxa à retrouver en détail sur franceinter.fr. On y apprend également que près d'un Français sur deux dans cette enquête, 46%, n'a jamais entendu parler des élections sénatoriales ce dimanche. On va y remédier tout de suite. Rappelons que c'est la moitié du Sénat qui sera renouvelé et que ce sont les grands électeurs et uniquement eux qui votent. Comme aux législatives, le Front National présentera des candidats dans toute la France, mais la moisson, Aurélien Colli, s'annonce plutôt légère.
3000 élus municipaux, 357 conseillers régionaux, une soixantaine de conseillers départementaux et une dizaine de maires. Oui, le FN a renforcé son implantation locale, il n'a même jamais eu autant d'élus, mais non, ça n'est pas encore assez pour se traduire en grands électeurs et donc en sénateurs. D'autant que cette année, le renouvellement se fait dans des départements où le parti reste à la traîne, du Loiret au Morbihan, du Lot aux Pyrénées, dans le centre ou en Île-de-France. Pas de région PACA notamment, où ont été élus en 2014 ces deux seuls sénateurs. Le salut pourrait toutefois venir des Hauts-de-France, en particulier du Pas-de-Calais, où le parti engrange après avoir labouré ses anciennes terres de gauche pendant une décennie. En 2014, Steve Briouat, l'enfant du pays, a pris Hénin-Beaumont. En juin dernier, 4 députés frontistes y ont été élus, dont Marine Le Pen. Alors pour ces sénatoriales, la tête de liste s'appelle Christophe Tsourek, descendant de mineurs polonais, conseiller départemental et surtout adjoint à la culture des Beaumont. Pour renforcer ses chances, il y a le nombre de sièges en jeu dans le département, 7, et le mode de scrutin proportionnel. Pour les diminuer, il y a 2 listes dissidentes, conséquence des divisions internes au FN.
La droite serait-elle en train d'adopter le mariage pour tous, la droite, ou en tout cas celui qui pourrait bien diriger bientôt le parti Les Républicains? Laurent Wauquiez annonce dans une interview à Valeurs Actuelles qu'il n'a pas l'intention d'abroger la loi Taubira sur le mariage homosexuel, lui qui en avait pourtant fait l'un de ses combats. En revanche, il veut modifier la loi sur les questions de filiation.
On a commencé ce journal par un ouragan, on va le finir avec un autre, Marc.
Souchon, Voulzy, Bruel, Lavillier, ils seront tous sur scène ce soir au Casino de Paris pour un concert exceptionnel destiné à recueillir des fonds pour les sinistrés d'Irma, un peu de musique et beaucoup de solidarité pour cette soirée que vous pourrez suivre au choix sur France Inter ou sur France 2. Alexandra Hakoun.
À circonstances exceptionnelles, réactivité exceptionnelle, il n'aura donc suffi que de quelques minutes pour que l'idée de ce concert s'impose. Caroline Gott, directrice de France 2.
Quand on a vu ces images de dévastation complète, on a vu tout de suite que c'était quand même quelque chose d'absolument dramatique. On s'est tous mis, que ce soit l'info, l'antenne, les unités de programme, au travail pour pouvoir faire ce concert le plus rapidement possible. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est de penser à la reconstruction et puis c'est aussi un moment de solidarité, d'être ensemble aux côtés des populations.
Sur la scène du Casino de Paris, Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacaro endosseront les costumes de Monsieur et Madame Loyal, entourés de journalistes, de sportifs et surtout d'artistes. Levé de rideau avec celui qui, sur France Inter, fera vivre cette soirée, Didier Varro.
On a Patrick Bruel qui sera là, et Michel Fugain, Bernard Lavilliers, Laurent Voulzy, avec cette chanson qui parle d'elle-même, hein, Belle île en mer. Souchon, son complice de toujours, sera là. Il y aura aussi quelques artistes de la nouvelle génération, dont Claudio Capéo. Et puis aussi des artistes qui ont un lien très fort avec la communauté antillaise. Jacob Desvarieux, l'une des têtes pensantes du groupe Cassave. Une opération comme ça, où c'est le service public qui se mobilise pour une telle action, les artistes n'hésite pas.
Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est l'an.
Ensemble pour les Antilles, donc à partir de 21h ce soir sur France Inter. Si vous pouvez faire un don, n'hésitez pas, via la Fondation de France avec laquelle Radio France s'est associée depuis le passage de l'ouragan Irma.
Merci Marc Fauvel.